Radio U.
C'est vous qui dites.
L'émission d'info locale.
Radio U.
Quimper.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Tréteau Théâtre à Quimper. Bonjour Léo.
Bonjour Gwen.
Et bonjour Sam.
Bonjour.
On est réunis aujourd'hui pour parler de la 5e édition du KIFF, le Quimper Images et Films Festival. On recevra Claire, directrice artistique du festival, pour évoquer la programmation de cette année. On recevra aussi Tanguy, comédien, qui nous parlera de Dizalé, studio de doublage en breton qui permet à de nombreux films, séries, documentaires, dessins animés d'être diffusés en langue bretonne. Mais tout de suite, on aura l'immense plaisir de recevoir l'acteur Samuel Kircher pour parler du film La danse des renards, qu'on vient juste de voir, dans lequel il joue Camille, un jeune boxeur qui va voir ses rêves de réussite mis à mal par un grave accident. C'est un premier film belge réalisé par Valérie Carnoy qu'on recevra aussi autour du plateau et on vous dira ce qu'on en a pensé. Et je le disais, on est avec Samuel Kircher, bonjour.
Bonjour.
Et avec Valérie Carnoy, réalisateur.
Salut.
Pour parler de La danse des renards qu'on a eu la chance de voir à l'instant et qui sortira en salle le 18 mars. Donc je le disais, c'est l'histoire d'un jeune boxeur, Camille, fougueux, plein d'ambition, qui va subir un accident et qui va voir sa trajectoire se briser, ses amitiés aussi se métamorphoser. C'est ça, c'est un film sur l'amitié avant tout.
Ouais, sur les premières amitiés, sur la première amitié. Voilà, c'est sur une séparation d'amitié. Et tout le monde, beaucoup de gens ont une première amitié. Toi, Valérie, t'en avais une. Et je pense que c'est sur celle-là que t'as voulu rendre hommage par ce film.
Bah, si on n'a pas de premières amitiés, Sam, on est un peu dans les choux. Hein. Faut bien commencer à un moment.
Un film sur l'amitié, mais un film surtout sur la boxe.
Bah, on va surtout parler d'un film sur la santé mentale, avant tout. Donc, étant donné que, même si on spoil un peu le film, l'accident au final qui va vivre, ce n'est pas un accident qui va le blesser. Donc on ne va pas être dans un film d'un boxeur blessé qui va devoir réapprendre à utiliser son corps, non. La problématique, elle va être mentale, psychologique, étant donné que notre ami va avoir des troubles psychosomatiques et des douleurs que personne ne peut expliquer. C'est là qu'est le mystère de ce film, et comment ce boxeur va réussir, ou qu'est-ce qu'il va devoir subir pour passer à travers tous ces problèmes.
Et puis c'est une immersion dans un milieu de la boxe, qui est un milieu, on peut le dire, viriliste, masculiniste, et ça explore aussi ce rapport à la masculinité, quelque part, cette difficulté de dire finalement qu'on a mal, de dire ce qu'on ressent en termes physiques, mais de ce qu'on ressent aussi peut-être pour les autres.
Alors la boxe, c'est en effet un milieu masculin, mais c'est aussi un milieu, enfin c'est un milieu au final où il y a énormément de femmes boxeuses, il y a énormément d'hommes boxeurs. Je pense que donc on va pas, ce n'est pas le milieu qui est extrêmement viriliste, c'est plutôt la manière dont on s'approprie ce sport. Et en tout cas, dans l'école de Camille, donc dans l'internat de ce jeune boxeur, leur groupe, on va dire, est peut-être en effet un groupe qui est un peu toxique et qui voit la puissance comme quelque chose d'un peu déifiant. Donc évidemment, étant donné que ce jeune boxeur Camille, donc le héros du film, est le boxeur le plus talentueux et qui va être mis à mal par toutes ces problématiques, évidemment, dans la hiérarchie, il va descendre et il va subir ou même être victime de toutes ces injonctions à la virilité. Et évidemment, ça c'est traité dans le film, c'est une des grandes parts du film.
Toi, Samuel, t'es issu de la danse, t'avais fait, je crois, sport-études au collège. Je sais pas si ça t'a aidé pour apprendre ce sport qu'est la boxe, qui est un sport très différent de la danse, mais qui explore aussi un rapport au corps.
Ouais, je pense, parce que aussi il y avait un côté chorégraphie aussi, puisque les combats finalement on les chorégraphiait, puis ensuite on les faisait. Et puis même, c'est vrai, pour apprendre les gestes, je pense que du coup il y a une mémoire du corps par la danse où voilà, t'apprends à retenir des chorégraphies, à retenir les sensations du corps. Et donc je pense que c'était plus simple de commencer ce sport et aussi d'apprendre les combats et de les reproduire.
C'était un sport qui t'attirait, toi, au départ, ou pas du tout?
La boxe?
La boxe, oui.
Ouais, en fait, c'est marrant, j'avais envie d'en faire depuis un an avant de rencontrer Valérie. J'en parlais avec un ami, lui s'y était mis, moi je m'étais pas mis. Et j'avais envie d'en faire, j'avais un désir, c'était vraiment l'occasion, quoi.
Donc là, tu t'y es mis à fond pour le film, et on précise que les acteurs avec qui tu joues, c'est des boxeurs dans la vraie vie, c'est ça ?
Ouais, bah, ils sont tous comédiens, et effectivement, certains viennent surtout de la boxe, quoi. Ils sont d'abord boxeurs, et pour tous faisaient leur premier long-métrage, ouais.
Ils sont devenus comédiens
par le film.
Par le film.
Et du coup, c'était comment cette immersion dans la boxe tous les jours, d'avoir un planning, j'imagine, assez intense ? Ça t'a plu ?
Tu veux dire dans la préparation,
ouais,
ou pendant
la préparation
le temps
physique, ouais.
Ouais, ça m'a plu. En fait, j'étais suivi par un coach qui me traitait comme si j'étais son poulain, son espoir, quoi. Donc ça veut dire on faisait trois séances ensemble. Ensuite, on planifiait les séances de seul, de renforcement ou de sparring que j'allais faire un peu à droite à gauche. Chaque fois, je l'avais au téléphone. Tu vois, il y avait un vrai échange, quoi.
On disait tout à l'heure que c'était un milieu qui pouvait être masculiniste ou viriliste, ouais. Et puis on pourrait dire même bestial, ouais. Parce que notamment le titre du film l'évoque, il y a ce rapprochement, ce parallèle qui est fait entre finalement le poulain qui quelque part est traqué aussi comme un cheval sur qui on va miser, en fait, c'est ça ?
Ouais, et en fait, oui, c'est ça. Et ce qui est le truc animal dont tu parles, c'est aussi, je trouve, l'instinct de survie, et qui est déclenché à cause de la compétition. C'est des jeunes qui sont mis très jeunes dans une très très grande compétition entre eux, vis-à-vis aussi des autres écoles et tout. Et il y a de la compétition partout. Et donc du coup, c'est ça qui fait ce truc animal, qui est un instinct de survie où d'un coup, bah, tu fais des choses que t'aurais jamais fait s'il n'y avait pas cette compétition qui te broye. Et donc du coup, bah, tu vas, voilà, il va y avoir du harcèlement, ils vont essayer de s'écraser les uns les autres, ils vont pas se comprendre, ils vont pas pouvoir respecter les choix des autres. Et voilà, donc ça, c'est ce qui parle dans le film. Et en plus, la compétition, tu vois directement ses coups, puisqu'il se donne des coups, il se donne des vraies blessures. Mais c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'endroits, et dès le très jeune âge, quoi. Déjà à l'école, puis dans les milieux professionnels et tout.
Et finalement, justement, de par cette blessure qui n'est pas si grave, il va accepter aussi d'explorer peut-être d'autres parties de lui-même, notamment sa sensibilité à la musique, puisqu'il y a ce titre qu'on peut peut-être écouter d'ailleurs si on veut. Je n'ai plus en tête, c'est Théo Charlie, je crois, numéro 2 du style. Et cette musique qui est liée d'ailleurs à un personnage du film, qui est une femme, et donc évidemment c'est la jeunesse, c'est aussi les premiers amours. Donc c'est ça, l'histoire du film, c'est le fait que quand le corps faiblit, finalement on va apprendre aussi à apprivoiser cette sensibilité.
Ouais, en fait, plus ce qui faiblit, c'est qu'il bloque. C'est comme un burn-out, quoi. C'est une douleur psychosomatique qui fait que le corps ne peut plus aller boxer. Il y a une douleur immense. Et donc, du coup, c'est comme si le corps le bloquait pour le forcer, le jeune, à s'écouter, justement, comme tu disais. À s'écouter, à être plus sensible à lui-même, à ce qu'il veut, à ses désirs, à ses envies. Et depuis qu'il a 12 ans, en fait, il a été mis dans le chemin de la compétition, de la boxe. Toute sa vie s'est resserrée au travers de la boxe.
Un peu malgré lui, quelque part.
Un peu malgré lui, les gens ont mis des envies sur lui. Et voilà, maintenant, avec ce burn-out, le corps bloque, dit non, maintenant... Écoute-toi et regarde ce que tu veux faire. Regarde les années que tu as vécues, regarde les années que tu te réserves. Et voilà, et fais un choix et demande-toi ce que tu veux. Et cette rencontre, justement, de ce personnage d'Anna, c'est un apprentissage immense parce qu'il rencontre quelqu'un qui s'écoute, qui sait poser ses limites, qui veut faire du taekwondo, mais pas pour la compétition, qui a envie de faire de la musique, donc qui fait de la musique, qui aime la nature, donc qui prend le temps d'être seul. C'est un personnage qui sait poser ses limites à un âge où on n'a pas encore forcément tous appris à poser nos limites. C'est ça aussi l'adolescence, la différence entre adolescence et devenir adulte.
Justement, c'est un film sur la jeunesse, et moi je voulais te poser cette question, Valérie, réalisateur, comment on fait dans un film français, enfin un film belge pour le coup, cofinancé je pense,
franco-belge.
Allez, on va dire franco-belge, comment on fait pour retranscrire justement ce langage notamment des jeunes, sans que ça paraisse vraiment surligné, stabilité, que ça paraisse réaliste, comment on fait ?
Il y avait une volonté, hein, tu parlais d'un film bestial, il y avait une volonté de faire un film très nerveux, très rapide, sans temps mort, où on ne s'ennuie pas, en tout cas, c'était un des objectifs. Et de là la bestialité, le film de groupe. Évidemment, dès le moment où tu dois faire un film de groupe, t'es avantagé parce que tu vas aller sélectionner des jeunes qui ont l'âge un peu du film. Donc moi, ce que je voulais éviter, la première grande règle pour répondre à ta question, c'est de prendre des faux jeunes. Des personnes qui ont 24, 25 ans, qui vont jouer des personnes de 17 ou de 18. Donc là, déjà, dès le début, au casting, on a imposé une sorte d'âge, donc maximum 19, pas plus. Et donc, on avait vraiment des jeunes très proches en âge, qui avaient au final assez peu d'expérience dans la vie, et qui oscillaient entre 15 et 19 ans. Et donc, dès ce moment-là, ça a été énormément de répétitions, mais les répétitions, elles ont surtout servi à ce qu'ils se rencontrent. et que ce groupe, même dans la vraie vie, ne soit plus en compétition les uns avec les autres. Ça devait être des amis, et dès le moment où ils sont des amis, bah sur le tournage, ils jouent entre amis, ils ne se regardent plus, ils n'ont plus un problème l'un envers l'autre, donc ils sont juste là en train de prendre plaisir, et dès ce moment-là, ils s'encourageaient, ils se donnaient plein de tricks. Ils ont pas mal aidé Sam dans tout ce qu'est la gestion technique de la boxe. Sam, qui avait plus d'expérience en jeu, a quand même pas mal mis à l'aise les autres en leur disant que c'était pas quelque chose, que c'était pas une montagne le jeu, que c'était quelque chose de possible. Et donc voilà, il y a eu pas mal d'échanges entre eux, et ça a été super. Maintenant, pour la mise à mot, ben ça, avec les répétitions, en fait, on était assez cool. Comme on prenait quand même les personnalités de chacun, bah, ce qu'on faisait, c'est que si par exemple certains costumes ils ne les aimaient pas, il fallait pas qu'ils se les imposent, on les imposait pas. On voulait quand même qu'ils aient les costumes qui leur plaisent, et c'est la même chose avec les mots. Il fallait qu'ils choisissent les mots qui leur plaisent, les blagues qui leur plaisent, dans le sens où ça doit rester cohérent dans leur nature. Et donc voilà, ça a été un gros travail, parce que ça c'est pendant les répétitions, puis on a tout remis sur papier, et puis c'était au par cœur, parce qu'il fallait quand même un certain cadre au tournage, étant donné qu'on avait que 30 jours, on pouvait pas trop se permettre non plus trop d'improvisation.
Tu parlais justement du côté nerveux du film, je crois que Lio, toi t'as beaucoup aimé en particulier les scènes de boxe, tu trouvais que c'était très réussi?
Ouais, j'ai trouvé que les scènes de boxe étaient particulièrement réussies, et j'ai même trouvé que c'était là où il y avait le plus grand intérêt du film au niveau émotionnel, parce que on pouvait sentir comment parfois il pouvait y avoir de la retenue dans l'attention des personnages, particulièrement le meilleur ami qui se retient beaucoup, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu, quelque chose de il va jamais faire vraiment le pas, jusqu'à la scène de fin où il se met à pleurer dans la voiture, et là d'un coup c'est un peu comme s'il relâchait tout. Et du coup, en fait, toutes ces scènes ouais, sportives, j'ai trouvé qu'on pouvait vraiment sentir l'entente entre vous. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, ce serait par rapport au fait que quand même, il y a cette histoire de compétition pour pouvoir aller à Paris et pour pouvoir essayer d'avoir une sorte d'ascension sociale. Comment est-ce que c'est de jouer ça par rapport au fait d'être acteur aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux vivre dans ton quotidien, le fait de dire j'ai envie de faire une ascension aussi, j'ai envie de pouvoir devenir acteur et peut-être de me mettre en compétition avec les autres? Ou est-ce que tu considères que t'es vraiment une personne qui, comme tu disais, avec les autres joueurs, est vraiment à l'horizontale et tu restes toujours en contact avec eux?
Moi, j'avais une question peut-être un peu dans le même sens pour Samuel. Est-ce que, parce qu'on t'avait vu notamment dans l'été dernier de Catherine Breillat, qui t'avait révélé, je pense, au grand public, film assez intimiste, on peut dire, film d'auteur. Est-ce que toi, c'est ton souhait peut-être de rester dans ce type de production, ou peut-être potentiellement de viser autre chose? Je dis pas que autre chose, c'est forcément plus de budget et que c'est mieux, mais est-ce que toi, t'es à l'aise avec ces productions-là et c'est ce que t'aimes faire?
Oui, en tout cas, c'est les films que j'aime bien regarder. Moi, c'est les films que je préfère regarder. Ensuite, ouais, pour ce qui est de la compétition, faut faire attention parce que, voilà, on est dans un monde qui l'entraîne, mais qui l'entraîne, t'as raison de le dire, dans le milieu entre les acteurs, mais dans plein d'autres milieux aussi. Je veux dire, quand j'étais à l'école, on m'a déjà mis en compétition pour que j'ai pu aller dans la licence que je voulais avoir. On m'a toujours mis en compétition, et on met beaucoup de gens en compétition. Donc maintenant, c'est un travail personnel, comme le fait le personnage justement de Yas dans le film, de se détacher pour se mettre soi, pour mettre ses envies en valeur, et ça permet aussi d'être avec les gens. La seule vraie connexion qu'il a, en tout cas, et qu'ils arrivent vraiment à parler, c'est avec Yas, c'est parce qu'elle est pas dans la compétition avec tous les autres jeunes, ils peuvent pas, parce qu'ils se regardent les uns et ils se disent mais qui bouffe l'autre en vrai. Mmh. Donc c'est sûr que voilà, c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire un pas de côté, mais c'est là parce que c'est comme une récurrence dans tous les milieux, c'est très rare à part
grave,
d'aller dans,
ouais. Grave. Mais c'est chouette de pouvoir se connecter comme ça au personnage. Je trouve qu'il y a quand même dans le film, et puis je parle à vous deux, il y a deux personnages féminins, il y a la mère et du coup il y a la petite amie, la personne qu'elle a à côté, et qui sont très maternants les deux, comme vous dites, ils rassurent, ils sont là pour aider. Et au final, c'est vrai que j'avoue, moi, le fait que ce personnage de la fille qui joue de la trompette, qui fait de la boxe, et on connaît pas, elle a pas été plus développée que par rapport à qui elle était.
Je trouve qu'ils sont un peu sous-exploités, que c'est un peu des faire-valoir pour les autres acteurs, c'est
ça ? Est-ce que c'était un choix ? Parce qu'il y avait vraiment une envie de parler, en fait, de masculinité, et de potentiellement masculinité toxique, et donc du coup de vraiment aller là-dedans ? Ou est-ce qu'au final, le fait de ne pas parler et de ne pas développer ces personnages-là, il n'était pas du tout réfléchi ?
Bah, vous m'entendez bien, là ?
Ouais, très bien.
Pour moi, il est hyper développé, le personnage féminin,
okay.
Parce qu'il a un rôle qui est complètement différent. Mm. Il a un rôle de guide. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce film. C'est pas le personnage féminin qui va sauver Camille du groupe de garçons et de la toxicité du groupe de garçons. C'est pas une histoire d'amour qui va le révéler à sa sensibilité. Non, ce qui l'attire chez Yas, c'est justement cette musique qui émane d'elle. Mais Yas, d'une certaine manière, c'est un personnage qui reste dur, qui a un rapport au sport, bien qu'il n'est pas spécialement compétitif, mais elle voit aussi en Camille une star, un grand boxeur, ou en tout cas quelqu'un qui a un don exceptionnel. Donc elle voit son talent, et elle le pousse vers ce talent. Non, ce qui se passe entre eux, c'est juste qu'elle a cette émanation de la sensibilité, et lui, on en parlait tout à l'heure, il est très faible, il est très sensible par sa faiblesse. D'une certaine manière, quand on est fatigué, qu'on est un peu plus vulnérable, on s'ouvre aussi à sa sensibilité. Et donc, il va être attiré par ce personnage. Et puis, ce personnage, elle va d'une certaine manière, comme il l'écoute jouer de la trompette, elle va l'écouter elle aussi. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir enfin mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc en fait, c'est un personnage qui est guide, parce que comme il écoute tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, il est influencé par elle, et d'une certaine manière, il va évoluer, il va devenir plus mature, étant donné que dans son groupe, bah, il était un peu dans un cercle, un cercle. Donc c'était à ça qui, moi, il me servait, ce personnage. Mais je dois rester concentré sur l'amitié initiale, qui est celle avec Mathéo. Donc j'ai mon personnage, un peu comme dans tous les romans d'initiation, elle est un guide, un peu à la Déméniane. Déméniane aussi disparaît à un moment dans le bouquin d'Hermann Hesse, soudainement. Et donc le personnage va évoluer par après. Ça, c'était vraiment important de l'avoir, ce personnage-là.
Puisque tu parles de références littéraires, moi j'avais lu quelque part que tu avais demandé à Samuel justement de regarder la référence littéraire, mais référence cinématographique, de regarder quelques films de Gus Van Sant, il me semble, et de Ken Loach aussi. Comment ça t'a aidé, comment ça a transformé peut-être ton regard aussi sur le jeu d'acteur, Samuel?
Ben ouais, tu m'as montré des films avec des genre Sweet Sixteen, Paranoid Park peut-être, et Gumo.
Caisse, non, je t'avais pas donné en référence.
Non, ça j'avais pas vu. Mais en tout cas, c'était des films avec des jeunes adolescents qui n'avaient pas forcément été acteurs avant et qui arrivaient avec une présence où en fait tu sens sur ce que tu dis sur le côté bestial et tout, mais même dans ton court-métrage, ça qui m'avait épaté, c'est que quand tu vois le personnage, en fait tu vois directement son instinct, tu vois directement ses envies, tu vois directement son stress, son angoisse, tout passe en fait par le visage, parce qu'en fait c'est un âge où t'as pas encore t'es encore au début de la vie, tu découvres les sensations, et donc t'es là à gérer plein de sensations en même temps. Plus tard, en devenant adulte, elles deviennent un peu des habitudes, des sensations, et t'apprends aussi à les cacher. Mais là, cet âge-là, ces personnages que tu me montrais, ils savent pas encore cacher leurs émotions, quoi. Ils vivent tout intensément. Et donc, c'était hyper intéressant de voir ça.
Une question peut-être aussi sur, là vraiment une question de réalisateur, sur la question du format et de l'image. Pourquoi ce choix? Alors, il me semble que c'est tourné en pellicule, c'est ça? Non, du tout. Bon, en tout cas, pourquoi cet effet de format un peu peut-être plus étroit, je n'ai pas les termes, mais pourquoi est-ce que tu peux nous parler en tout cas de ce format d'image?
Bah, je vais répondre à tes deux questions. Donc, le côté pellicule dont tu parles, c'est pas un effet. Côté pellicule, c'est un effet. Et en fait, étant donné qu'on est très fort sur les visages et sur les émotions, même dans les combats, l'idée c'est d'aller voir l'enfance de ces jeunes, leurs yeux, comme on a beaucoup de gros plans, ben, j'ai besoin d'aller mettre de la matière quand même dans la peau. Parce que le numérique crée un peu un effet plasticine, très digital. Donc avec le grain qui bouge, ça rend la peau plus organique. Et le film, c'est constamment une recherche d'organicité. Hein. Que ça soit les bêtes, les renards, tout le côté un peu charnel, la chair, qui traverse un peu le récit. Et puis le deuxième, on a un peu réduit le cadre pour justement nous rapprocher d'une certaine manière du personnage principal et être vraiment dans ses yeux à certains moments. Parce que tout passe par du psychologique. C'était le plus grand défi du film, c'est de réussir à filmer une douleur invisible, une douleur qui n'est pas organique, il n'y a pas une blessure réelle, tout est dans sa tête. Donc pour filmer ça, on a besoin d'aller dans ses yeux, on a besoin de se rapprocher très très près de tous ces jeunes acteurs. Puis comme on est souvent dans un groupe, c'est un véritable défi, quoi.
On parle du rapport à la masculinité aussi depuis tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi Samuel, quel est ce rapport-là? Est-ce qu'il est, alors le mot déconstruit, il est un peu galvaudé, mais comment tu envisages ça, toi?
Ben moi, il a fallu que je le découvre un peu pour le film, quoi. Voilà, il fallait que un personnage qui est plus dur que ce que je suis. Donc je suis allé faire du sport, je suis allé muscler, puis. Ensuite, voilà, dans la manière d'interagir, de surtout pas montrer de faiblesse, dans la manière d'être dans un groupe, quoi. Pas montrer de faiblesse, pas laisser transparaître une petite part de fragilité, parce qu'elle se ferait bouffer, en fait, directement. Dans ce système-là, hyper compétitif de cercle d'amis, où dès qu'il y a moyen de prendre la place, je la prends, parce que j'ai besoin de me faire valoir, quoi.
Ouais, puis le film, c'est un film d'internat. Et l'internat, c'est dominé par la vanne. Il faut savoir faire les meilleures vannes. Il faut jamais être vraiment très sérieux. Il faut jamais vraiment s'écouter intimement. C'est vraiment un cadre très très complexe. En tout cas, pour y avoir été, la vanne, c'est vraiment la base même de comment tu vas prendre ta place dans le groupe. Donc, ça passe par la moquerie, ça passe par plein de petites choses, le running gag et tout ça.
Est-ce que tu avais fait de la boxe, toi ? T'étais en internat sport ?
Moi, j'étais en foot.
En foot ?
Exactement. Mais voilà, comme il y avait tous les sports, et évidemment, tout ce qui était arts martiaux et sports de combat, c'était des groupes aussi qui étaient... Nous, on était le plus grand groupe, on était les footeux. Mais il y avait tous ces groupes, et ils inspiraient aussi fascination. En tout cas, les groupes de boxe, en boxe anglaise, tu savais que c'était les plus téméraires, c'était le groupe à ne pas aller chercher, même si c'était 7 ou 8. Et donc voilà, il y a des fascinations, il y a des fantasmes quand on est plus jeune. Donc voilà, c'est aller vers ça, quoi.
Et ce qui n'accepte pas, ou en tout cas ce qui n'accepte plus Camille au bout d'un moment dans le film, par rapport à la boxe, c'est peut-être justement de faire du mal à l'adversaire, de faire du mal à l'autre, ça il ne l'accepte plus.
Ah ouais, je pense que tout le processus de combat n'a plus de sens, quoi. T'as plus envie de combattre. Tu sais plus pourquoi. C'est sûr, la boxe, c'est un sport qui est risqué. C'est le sport le plus dangereux, on dit. Puisqu'en fait, t'as les répercussions à 40 ans, enfin plus tard, mais c'est là le sport où tu donnes le plus de coups dans la tête. Donc, du coup, en fait, bah, tu sais que t'abîmes vraiment la personne que tu fais, même si ça se voit pas forcément sur le moment, mais c'est sûr que plus tard, il y aura un prix à payer. Et puis toi aussi, tu t'abîmes toi-même, que tu gagnes ou que tu perdes.
Et puisqu'on. Pardon, vas-y.
Non, mais je dis qu'il y a une. Ça, c'est un truc important et moi, je veux le savoir, c'est qu'il a une découverte de son empathie. Et je pense que l'empathie, c'est aussi un mécanisme, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, on ne naît pas empathique. On est tous empathiques, mais on peut, par des filtres et des problématiques, l'être un peu moins ou l'être un peu plus. Et grâce à cet accident, d'une certaine manière, grâce à ce traumatisme psychologique, il découvre sensibilité, empathie et tout ça. Et donc évidemment, c'est hyper complexe pour lui de blesser, car il souffre déjà et il rentre dans ce beau processus, en tout cas, qu'est l'empathie.
Il y a quelque chose d'intéressant aussi avec ce que tu dis par rapport à l'empathie, au fait que tu te prends les coups et que ça reste, parce que c'est dit dans le film, sa manière de boxer, c'est de beaucoup prendre énormément de coups et ensuite d'attendre et de viser. Et donc ça fait que, même s'il découvre l'empathie, il y a cette chose quand même qui est mise déjà dès le départ de « moi je me prends tous les coups, je préfère prendre moi et après faire sa vie ».
Du coup justement c'est ça l'évolution du personnage, c'est qu'au début il a une boxe où il danse, où il prend zéro coup.
Ouais.
Il esquive tout, il prend zéro coup et petit à petit il y a ce désintérêt de la boxe, okay. Ça devient plus un jeu et justement on le voit au dernier combat, c'est plus tout le même style de jeu, mm-hmm. Il boxe comme un poids lourd, c'est ce qu'il dit.
Ouais.
Et effectivement il prend sur lui, il attend la dernière occasion et il finit le combat le plus vite possible. Mm-hmm. Donc ça veut dire que voilà, on sent qu'il n'y a plus du tout l'amusement, il n'y a plus du tout le côté jeu, il y a le côté vraiment presque business, quoi. Calcul, stocker jusqu'à pouvoir répondre et espérer que ça finisse là. Donc c'est une évolution.
Et ben on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Samuel et Valérie d'avoir été avec nous. On rappelle que donc La Danse des Renards, ce sera le 18 mars en salle. Et tout de suite, on écoute Meule entre deux, qui seront d'ailleurs sur la scène Novomax pour la Kiff Party. Bonne écoute sur Radio U.
un curieux sentiment entre deux intestins.
De retour sur Radio et on reçoit un autre comédien, Tanguy, qui va nous parler de Dizalé, un studio de doublage en breton qui permet à de nombreux films, séries, documentaires, dessins animés d'être diffusés en breton. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Comment t'as rejoint Dizalé?
Alors, c'est une longue histoire. Ça a commencé par la création en fait d'une chaîne de télévision en breton par TF1, il me semble, ou en
c'était
tout cas
TV Braise, c'est ça.
C'est ça.
Et
TV Braise.
Qui a un peu tombé à l'eau, il me semble.
Alors ça a fini par tomber à l'eau, mais ça a commencé dans les années 2000, en l'an 2000, et donc l'association Dizalé s'est créée assez rapidement pour donc gérer tout ce qui était doublage de produits en langue bretonne. Donc ça a commencé par des dessins animés pour les enfants, des séries télé, alors des séries télé, ce qu'on voyait à peu près sur toutes les chaînes à large diffusion, donc des séries, vieilles séries américaines. Et puis ensuite, on a commencé à attaquer les longs métrages et choses comme ça, voilà.
Et je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais comment vous sélectionnez justement à Dizalé les films que vous allez doubler? Parce que forcément, on ne peut pas tout traduire, c'est impossible, donc il faut faire des choix. Comment on fait ce choix-là et pourquoi ce choix-là, manifestement, il se dirige surtout vers des productions finalement assez, assez mondiales, enfin des grosses productions?
Moi, j'ai pas du tout la main en fait sur ces choix-là. Je suis comédien, donc je vois pas trop le l'amont de la chaîne. Ce que je sais quand même, c'est qu'on essaye en effet d'avoir des films qui ont marqué leur temps, tout du moins.
Terminator.
Ouais, par exemple. Terminator 2, Braveheart, il y avait quoi, les Incorruptibles, des choses comme ça.
Mais c'est intriguant quand même, Terminator en breton, c'est vrai qu'on se dit peut-être que c'est des cultures qui sont quelque part un peu irréconciliables. J'ai tort de penser ça.
Alors pas du tout, moi ça a été un film qui m'a, alors je vais pas dire fait rire quand même, mais qui m'a, pareil, laissé un petit peu, pas circonspect, mais étonné au moins, parce que il y avait la même chose mais arrivée avec Apollo 13 qu'on a doublé également, donc ça se passe dans l'espace, et donc amener le breton dans l'espace ou le breton dans le futur, dans la science-fiction, des robots qui parlent breton, l'humanité qui disparaît qui parle
ça
breton,
ça peut faire sourire.
Alors on s'y attend pas. Il y a un petit côté dystopique, puisque quand on regarde la réalité de la langue bretonne, c'est plutôt une langue qui a été écrasée suite à la Révolution française l'État central à la française. Alors, il n'y a pas que le breton, hein, il y a le basque, l'alsacien.
Le gallo aussi, puisque le corse aviez aussi des films en gallo maintenant.
Alors aujourd'hui, il y a du gallo aussi, parce qu'il y a autant, voire plus de locuteurs de gallo en Bretagne que de locuteurs de breton. C'est une chose que je ne savais pas, mais il y a plus de locuteurs de gallo que de locuteurs bretons. Si on rapporte tout ça à la population bretonne, ça reste quand même un faible pourcentage de galaisans ou de bretonnants. Mais par rapport au...
Oui, c'est un public assez restreint quand même.
Par rapport aux francophones, oui. Mais il y a eu un brassage assez énorme dans les dernières années. Mais jusqu'aux années 70-80, c'était encore très présent. Très présent.
Et justement, à qui vous vous adressez chez Dizalé quand vous doublez des films? Ils sont destinés à qui avant tout? Aux scolaires, à ceux qui apprennent le breton, aux enfants? Parce que j'ai vu que vous doublez beaucoup, beaucoup de dessins animés, donc adressés surtout aux enfants, au jeune public. C'est un choix de se diriger surtout vers ce type de film-là pour que ce soit justement un support d'apprentissage pour le breton?
Oui, je pense que c'est un choix de cette tournée d'abord vers les enfants parce qu'ils représentent l'avenir, tout simplement. Moi, j'ai un peu plus de 50 ans, dans 30 ans, je serai liquide, et dans 40 ans, je serai mort. Donc les enfants, là, par contre, j'ose espérer qu'ils seront encore vivants, déjà, et que peut-être ils utilisent le breton dans leur quotidien. Moi, ça a été mon cas, par exemple, quand j'étais petit, donc je suis né, moi, au milieu des années 70, en 74. J'ai été scolarisé dans les toutes premières écoles d'Iwan. Donc ça, c'était en 77, avant les années 80 même, quoi. Et aujourd'hui, je parle breton avec mes enfants à la maison. C'est la langue familiale.
Est-ce qu'il y aurait une sorte d'idéal que les familles qui ne parlent pas breton, mais qui sont en Bretagne et en Finistère, au final, mettent des dessins animés et des films en breton, traduits en breton pour leurs enfants, et faire en sorte qu'en fait cette culture bretonne continue, on est sur un lieu qui a sa propre langue, qui a sa culture, et de juste la faire vivre.
Oui, alors j'ai entendu ça par certaines personnes qui me disaient alors nous on parle pas du tout breton, mais on va écouter les films en breton ou les dessins animés en breton parce que c'est super marrant, et puis ça habitue notre oreille à entendre du breton. Voilà, alors cela dit, il faut savoir qu'il s'est passé en breton, ou sur la langue bretonne, à peu près la même chose qui s'est passée sur la langue française, c'est-à-dire que dans les années 70, on va dire, est apparu ce qu'on appelle le français hexagonal, c'est-à-dire c'est un français avec des termes techniques ou des termes universitaires, mais qui n'ont pas le sens des universitaires très spécifiques, qui ont pris un sens plus large et dont la population entière, en fait, s'est fait les porteurs et les utilisateurs. Et il s'est passé la même chose en langue bretonne. Donc on entend aujourd'hui, dans le breton d'aujourd'hui, des termes techniques qu'on n'entendait pas du tout dans le breton des années 50, par exemple. À tel point que des locuteurs qui sont nés dans les années 40-50 disent, mais c'est marrant, je reconnais pas, c'est pas la langue de mes parents.
C'est un breton un peu artificiel, quelque part.
Alors, je ne sais pas si c'est un breton artificiel, parce que le français hexagonal, c'est celui qu'on parle, nous, là, aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est artificiel, puisqu'il nous sert à communiquer. Là, c'est pareil, c'est un breton qui sert à communiquer. Mais c'est certainement une langue qui a subi des métamorphoses, on va dire. Voilà. Et dont les supports d'enregistrement, vidéo, radio, font que les gens s'accaparent cette langue-là.
En tout cas, si, j'imagine que si tu as choisi, parce que c'est un choix, de se tourner vers un studio de doublage en breton, c'est que quelque part, tu as un attachement fort pour cette langue et cette culture-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la culture bretonne et la langue bretonne?
Ah ben, moi, je suis tombé amoureux, on va dire. En tout cas, j'ai eu une attache affective à cette langue, mais qui est liée, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Comme c'est la langue que j'utilisais à l'école quand j'étais petit, au bout d'un moment, j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'étais dans une école publique de la République française. Et quand il y a eu la possibilité de remettre cette langue au milieu de ma vie, j'ai sauté sur l'occasion. Et en effet, il y a une attache affective très forte. D'ailleurs, c'est pas parce que j'étais comédien que j'en suis venu à faire du doublage. C'est parce que je parlais breton. Et ensuite, je me suis formé à être comédien. Moi, au départ, ma formation de base, c'était de la biologie. Donc, absolument rien à voir avec la biologie. Après, je suis parti faire des études de sport. Enfin, absolument rien à voir avec le breton. Comme c'était là, le jour où TV Braise a cherché des bretonnants, j'ai levé la main. Et j'ai été embarqué là-dedans. Et je me suis formé à la comédie ensuite.
Tu peux peut-être nous dire justement, nous rappeler pourquoi c'est important de défendre le breton ?
Alors, pourquoi ?
Cette
alors,
question, je pense elle, que... peut-être t'halluciner, mais peut-être que tu peux nous expliquer, nous réexpliquer.
Alors, je ne sais pas s'il y a une raison valable pour tous de défendre le breton. Je pense que chacun a ses raisons personnelles, individuelles, de défendre le breton ou de le dénigrer pour certains, puisque j'ai vu ça aussi. Hein, je vois des gens qui sont très mal à l'aise avec le fait que cette langue persiste. Il faudrait qu'elle finisse de disparaître et qu'on n'en parle plus. Voilà. Alors moi, pourquoi est-ce que je veux défendre le breton ? C'est pas uniquement le breton. Moi, c'est toutes les langues qui disparaissent. J'ai envie de les défendre. Enfin, en tout cas, j'ai envie qu'elles perdurent parce que c'est un petit peu comme la biodiversité dans la nature. Oui, c'est ça. Si on arrive à une monoculture, si tout le monde parle anglais ou tout le monde parle français ou tout le monde parle chinois, enfin peu importe, mais si on parle tous la même langue, on va aborder les problèmes toujours par les mêmes endroits, on va dire, puisque une langue, c'est aussi une structure mentale, et une structure mentale, ça fait aborder des problèmes des fois mathématiques, artistiques, enfin peu importe, mais par des endroits vraiment différents. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'en fait, travailler des gens qui parlent des langues différentes sur un même sujet ensemble, des scientifiques par exemple, ça avance beaucoup mieux et beaucoup plus vite quand ils ont des langues très différentes, parce qu'ils vont aborder les problèmes par des endroits complètement différents. Oui.
C'est quelque chose qui se voit de plus en plus, même moi je pense en Irlande, il y a de plus en plus, je crois que j'ai entendu dire, mais bon probablement que mon pourcentage est faux, mais que le nombre de personnes qui décidaient d'apprendre l'irlandais en fac était augmenté de 300% ces dernières années, et c'était surtout par rapport à un groupe de musique qui s'appelle Kneecap, et en fait qui ne chante que en gaélique, en irlandais, et qui a du coup fait vraiment revivre cette culture de l'Irlande pré-Angleterre et pré-Royaume-Uni. Et enfin, c'est très présent, et de la même manière qu'on le voit avec le breton et avec plein d'autres cultures, comme vous le dites, est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est aussi une manière de se défendre de cette uniformisation qui se fait de plus en plus, où tout le monde s'habille pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde fait pareil, et de dire, non, aussi le fait, comme tu le disais un petit peu avant, d'avoir toutes ces différences, ça nous permet de créer une vraie culture et une vraie idée.
Oui, probablement. Alors, je suis pas compétent là-dessus parce que j'ai pas fait d'études. Il y a des gens qui étudient ça, hein, qui regardent ça de près. Moi, je sais pas trop. Mais c'est une impression, tout du moins. Après, faut se méfier de ses impressions, ses opinions ou son bon sens. Ça peut être contre-intuitif, mais des fois, il se passe pas du tout ce qu'on a l'impression qu'il se passe. Mais je pense que beaucoup de gens, et c'est, mondial, je pense d'ailleurs, voient leur identité ou leur culture, je ne sais pas trop comment le dire, leur échapper et être remplacée par une culture mondiale, on va dire, mondialisée. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde porte des jeans aujourd'hui. Dans le monde entier, les gens portent des jeans, des baskets, on est tous habillés en jeans, là, presque.
Ouais, on est tous habillés en jeans, sauf toi.
Les auditeurs ne le voient pas, mais oui, voilà. Mais on a presque tous des jeans.
Jeans, des baskets, je
sais. Non, c'est très bien. Comme quoi, tu vois. Je pense qu'il y a une sorte de peut-être pas combat, mais d'envie au moins que cette diversité-là ne soit pas diluée ou ne disparaisse pas dans l'uniformité de ce qu'on nous montre à la télévision, dans les publicités,
Et puisque tu parles justement de la télévision, des publicités, moi je voulais te poser cette question. On commençait tout à l'heure à parler de TV Braise, qui malheureusement n'avait pas pu aller au bout de ses idées, parce que ça s'était mal terminé. Enfin, je pense que ça avait été liquidé, je crois. Mais est-ce que ça nous dit pas aussi que la production cinématographique, et même plus largement la production audiovisuelle en Bretagne, que ce soit d'ailleurs en breton ou en langue française, elle est plutôt inexistante, et que c'est pour ça, en fait, que ça répond à la question que je posais tout à l'heure sur pourquoi vous doublez Terminator? Parce qu'il n'y a pas de film en breton.
Oui, alors il y en a assez peu, mais parce qu'on a très peu de moyens, malheureusement. Alors il y en a quand même, la région met les bouchées doubles quand même pour essayer de produire, mais les productions, ça coûte extrêmement cher. On a aussi le soutien d'ailleurs du Centre de la Cinématographie, etc., le Centre National de la Cinématographie, mais c'est vrai qu'on a une production qui est pas très étoffé. Il y a quand même des choses qui existent. Il y a quand même des choses qui existent, mais c'est vrai que quand on regarde...
Il y a réseau web, il y a des choses comme
alors
ça.
Alors ça, ce sont les diffuseurs.
Oui, ah, pardon.
Donc, enfin, qui sont aussi producteurs peut-être, mais surtout diffuseurs quand même. Après, il faut les réalisateurs, les équipes de comédiens, les, enfin, etc. Il faut, et quand, si on tourne en breton, il faut que toute l'équipe, le chef-op, le preneur de son, etc., etc., parle breton, parce que sinon, il est perdu. Quand il a des on peut comment filmer et enregistrer des gens qui parlent pas notre langue, mais attention, c'est piégeux, quoi. On peut vite se faire rattraper. Voilà. En gaélique, par exemple, ou en gallois, il y a beaucoup plus de production parce qu'il y a aussi beaucoup plus de moyens. Il y a beaucoup plus de moyens. Voilà. C'est multiplié par 10 ou 20. Voilà.
Donc on voit bien quelque part que choisir de faire du doublage en breton, c'est indissociable quelque part d'une question militante ou politique, ou en tout cas d'une, ouais, d'un militantisme.
En tout cas, c'est pour permettre au moins à ceux qui restent, puisqu'il en reste quand même, il ne faut pas les oublier, d'avoir des produits audiovisuels. Et des films de science-fiction, des films de voilà, ils sont quand ils sont tournés pour la plupart en anglais. Des fois, ça nous arrive hein, de doubler des films qui étaient en gallois ou en israélien ou en russe ou en enfin voilà. C'est beaucoup quand même de films qui étaient en anglais ou en japonais, parce qu'on fait des mangas également. Mais et ça permet en fait tout simplement à ceux qui parlent breton d'avoir quand même. Un petit catalogue de produits audiovisuels pour égayer leur soirée d'hiver.
On parle beaucoup depuis tout à l'heure des questions que pose justement le doublage en breton, mais peut-être que tu peux nous expliquer aussi en quoi ça consiste concrètement, techniquement, comment ça se passe. Déjà, est-ce que c'est plus difficile de faire du doublage en breton ? Est-ce que c'est plus difficile en termes de synchronisation, par exemple ?
Non, c'est, le principe est le même que pour un doublage en français. C'est-à-dire que en fait, tout la qualité du doublage sera bien. Alors, bien évidemment, le travail des comédiens à l'interprétation, mais aussi énormément et donc la direction de ces comédiens. Hein. Quand je dis le travail des comédiens, c'est les comédiens et la direction des comédiens, parce qu'un comédien tout seul, il fait pas grand-chose en fait. Il faut qu'il soit dirigé et bien dirigé. En fait, l'adaptation. Alors ça, c'est un métier qui est assez difficile, assez ingrat parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est comment passer de la langue originale à la langue cible en respectant les mouvements de bouche des personnages, etc. etc. Donc c'est pas de la traduction à proprement parler, c'est vraiment de l'adaptation. Et là, il faut avoir des coups de génie en fait, pour réussir à rendre le sens global en respectant en
pour
fait
que ce soit pas grossier à l'image quoi.
Ben oui, il faut que ça passe le mieux possible.
Et qui s'en occupe justement de ce travail d'adaptation et de traduction ? Est-ce que c'est les équipes de Dizalé qui s'en occupent ?
Alors Dizalé travaille avec plusieurs adaptateurs, adaptatrices. Là, il y en a deux qui me viennent en tête, mais il y a plusieurs personnes qui ont fait le travail. Il y a Corinne Lemero qui a un breton magnifique et qui du coup là pour le coup fait un travail d'adaptation assez exceptionnel parce qu'elle va chercher très loin des tournures de phrases, etc., des références culturelles, enfin donc ça c'est très réussi. Et Léna Catalan aussi qui fait un travail remarquable. Donc on a plutôt des adaptations, donc là c'est deux adaptatrices, mais qui font vraiment un travail remarquable, quoi. On a de la chance parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ce travail là ça demande vraiment d'avoir beaucoup d'imagination, parce que il faut réussir à coller en fait à donc ce qu'on appelle le lip sync en anglais, donc la synchronisation des mouvements de la bouche, voilà, parce qu'il y a eu un travail en amont encore par un détecteur ou une détectrice qui va regarder image par image le film. Pour un dessin animé c'est un peu plus simple, mais le film pour regarder tout ce qui est avancée de bouche, O, U, on par exemple, donc là la bouche ronde, des grandes ouvertures de bouche, A, E, I, les labiales, MBP, les semi-labiales, FV, les dents, enfin voilà.
Donc, c'est un travail très technique, on le comprend.
Ouais. Et donc, c'est des signes sur une bande, et les adaptateurs derrière vont devoir suivre ces signes-là au plus près. Alors, des fois, on est obligé de tricher, mais au plus près. Et plus on arrive à suivre ces signes-là dans l'adaptation, et plus le doublage sera réussi derrière.
Et depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a peu de moyens en Bretagne, malheureusement, mais en tout cas, Dizalé, c'est un bon exemple, un contre-exemple en tout cas, puisque je crois que vous avez maintenant un très beau studio. Alors le parcours, il a été un peu mouvementé dans votre histoire, dans votre longue histoire, mais est-ce que tu peux nous parler de l'espace que vous avez maintenant à disposition ?
Alors, le studio qui est sur Quimper, donc il est installé au Chapeau Rouge, et c'est un outil qui est exceptionnel, on va dire, par rapport à la taille de notre petite industrie du doublage en breton. En fait, c'est un outil qui a été reconstruit à partir d'un premier auditorium qui avait été monté à Lorient par TV Braise. Alors, il faut savoir que TV Braise, au départ, ça avait été monté par Patrick Lelay, donc qui était PDG de TF1, qui lui est un collectionneur de littérature bretonne. C'est un breton, hein, le gars, amoureux de la Bretagne. Voilà. Et donc, lui, il voulait cette chaîne. Et donc, il a mis les moyens qu'il fallait pour que ça voit le jour. Et du coup, il y avait un auditorium magnifique à Lorient. Alors, quand Patrick Lelay est mort, l'équipe qui lui a succédé à TF1 était beaucoup moins intéressée par la langue bretonne, a laissé TV Braise, du coup, péricliter, devenir TVB, avec de moins en moins de bretonnes, plus de lignes éditoriales en breton, puis plus de films doublés en breton. Et donc, à partir de ce moment-là, il y avait un outil vide à Lorient. Et il y a une partie, alors pas tout, mais toute la partie acoustique de cet auditorium a été rapatriée à Quimper pour monter, en fait, ce studio-là, qui existait déjà, mais pour faire des enregistrements et de musique et d'audiovisuel. Et là, il est quand même très spécifiquement pour la post-production audiovisuelle, quoi. Et donc, c'est un outil magnifique, quoi.
Est-ce que ça vous arrive, du coup, maintenant que vous avez ce travail en breton, d'avoir le breton beaucoup plus présent dans votre quotidien, peut-être avec des personnes qui sont bretonnants au quotidien, qui ne parlent peut-être même à peine français, et de pouvoir avoir des conversations au marché, ou je ne sais pas?
Alors moi, j'utilise le breton au quotidien, déjà dans ma famille. Chez moi, je parle breton avec mes enfants, je parle pas, y a pas un mot de français. Alors ils parlent très bien français, hein, y a pas de souci. Ils parlent même mieux français que breton, parce qu'on est dans un univers diglossique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une langue dominante, et la langue dominante, c'est le français. Tous les médias, quasiment, à part les produits que nous on produit, ou bien quelques radios qui diffusent du breton, voilà. Alors on peut s'en abreuver. Pour la littérature, c'est pareil. Il y a beaucoup de livres en breton qui existent, mais ça n'a rien à voir avec ce qui peut être proposé en français. Donc on baigne quand même dans un univers francophone. Voilà. Par contre, oui, moi, autour de chez moi, j'habite dans les Monts d'Arrée, là, et à Plouney-Hourmenès, il y a énormément de gens qui parlent breton. Donc, quand je vais faire mon marché, je parle breton. Tous les jours, je parle breton avec des gens qui ne sont pas de l'intérieur de ma maisonnée. Voilà. Et le doublage en breton, pour moi, c'est aussi amener le breton beaucoup plus loin que juste l'intérieur de ma famille, quoi. Donc, il y a une impression de partage et d'ouverture vers l'extérieur, quand même. Ouais, ouais.
Et donc le breton n'est pas si mort que certains voudraient nous le faire croire. Merci beaucoup Tanguy d'avoir été avec nous, et tout de suite on reçoit Claire, directrice artistique du KIF.
C'est vous, Juliette. L'émission d'info locale.
On est de retour dans C'est vous qui dites, et on est ravis de recevoir Alison, bonjour.
Bonjour.
Et Sam.
Bonjour.
Qui sont donc en mission locale, et qui vont nous parler du film La Danse des Renards que vous venez tout juste de voir.
On va vous présenter La Danse des Renards, dont on vient de sortir. On vient de voir le film, et honnêtement, je pense que vous allez énormément apprécier si vous allez le voir quand il sortira au grand jour. Comment je pourrais résumer La Danse des Renards? C'est un film très intéressant qui parle beaucoup de santé mentale. Ça parle de Camille, un jeune boxeur qui va avoir un accident, se blesser, et on va suivre un peu comment il retrouve un peu la santé, entre guillemets. Mais ça parle vraiment plus de santé mentale que de boxe. Et il y a vraiment pas mal de...
Il y a pas mal de sous-entendus par rapport à certains sujets, on va dire. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas.
Pas mal de références, etc. Avec notamment, du coup, notre ami Le Renard, qui vient vraiment apporter une assez grosse importance, d'après ce que nous a dit, du coup, Samuel Kircher, qu'on a écouté à la fin de la séance. Et voilà. Et du coup, voilà. Et il va nous... Samuel Kircher, du coup, qui joue Camille, va nous faire passer par beaucoup d'émotions, que ce soit la joie, l'amour, la colère, le désespoir, la tristesse. On passe vraiment par toutes les émotions possibles. Et c'était vraiment très, très passionnant. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent se relier, parce que du coup, ça parle d'un sujet qui n'est pas très, très connu quand même, parce que du coup, c'est avoir mal, genre, sauf que c'est pas... C'est pas dans le médical, mais dans le côté psychologique de la chose. Et donc, c'est très, très passionnant et très intéressant à voir. Voilà.
Eh bien, merci à vous.
C'est bon, Juliette.
On est de retour dans C'est vous qui dites et on reçoit Claire Gaillard. Bonjour.
Bonjour.
Directrice artistique de l'association Gros Plan qui organise le KIF. Est-ce que tu peux déjà nous présenter l'histoire de ce tout jeune festival, puisqu'il a quoi, 5 ans maintenant, c'est sa 5e année?
Oui, en fait c'est 5 ans en 2026. C'est un nouveau projet dans l'association Gros Plan, puisque l'association Gros Plan, c'est une association d'éducation à l'image qui du coup œuvre tout au long de l'année en coordonnant différents dispositifs, différents projets d'éducation à l'image. Et le côté diffusion jusqu'à présent, parce que Gros Plan c'est une association qui a 40 ans, même plus, programmée avant une salle de cinéma, qui était en régie municipale et puis qui a été racheté en 2019 par le groupe Cinéville. Et du coup, avec la perte de la salle, le projet de Gros Plan du coup, a dû se recentrer. Voilà, et pour les Quimpérois, avec la perte de la salle, Gros Plan était un peu, avait besoin de retrouver une certaine visibilité. Donc le projet culturel s'est réécrit autour de deux festivals, La Tête Ailleurs, le festival Jeune Public au mois d'octobre, et le KIF, ce festival de cinéma du coup qui est né il y a 5 ans. En fait, il a, pour moi, j'aime bien dire qu'il a 6 ans, mais parce qu'il y a eu une édition annulée à cause du Covid, mais comme c'est quand même une édition qu'on a travaillée, c'était un premier brouillon, et voilà. Mais donc, c'est pour ça, c'est un tout nouveau projet. Et puis, c'était important que ce festival soit aussi, à mon sens, le reflet du travail qu'on mène à l'année, notamment autour de la jeunesse.
Et ce qui est intéressant avec la programmation, c'est qu'elle est particulièrement riche et particulièrement éclectique surtout, c'est-à-dire qu'il y a autant des jeunes réalisateurs, des premiers films qui sont mis en avant, à travers notamment un prix, qui est le prix de la ville de Quimper, et puis il y a aussi des rétrospectives de grands classiques du cinéma, je pensais à Citizen Kane, Psychose, ou des films plus récents comme Nausicaa. C'était quoi l'idée avec le festival? C'était d'avoir quelque chose d'éclectique, qui balaie comme ça un paysage du cinéma?
Oui, tout à fait, en fait... Je souhaitais quand même qu'on s'intéresse à la jeune création, où en est le cinéma à l'heure actuelle, en présentant du coup, en mettant toujours en avant cette jeunesse, donc avec des premiers longs métrages qui nous semblent avoir un regard particulier sur le cinéma, mais aussi la catégorie Où va le monde. Mais voilà, pour construire une cinéphilie, pour aussi réaliser des nouveaux films, en fait, on se nourrit forcément des grands films du répertoire cinématographique. Et donc pour moi, ça me paraît important, en fait. Et d'ailleurs, dans les parcours de spectateurs qu'on peut accompagner, que ce soit dans les options cinéma diverses et variées, mais aussi des programmations scolaires, on présente, au fait, tout au long de l'année, des films... de répertoire, des grands classiques comme ça, avec on va présenter un film, faire intervenir des personnes qui vont venir apporter un éclairage. Et en fait, dans le cadre du festival, je voulais vraiment qu'il y ait ces films-là, et aussi les éditorialiser, pas les programmer juste comme ça, et du coup plutôt les construire autour de fils rouges. Donc il y a souvent, chaque année, en fait, pour moi c'est assez important de présenter maintenant ce qu'on appelle le cinéma du matrimoine, plutôt réalisé par des femmes. Donc il y a toujours comme ça un parcours de 3 films éclairé par une conférence. Et puis
Jane Campion cette année.
Voilà, Jane Campion cette année. On a programmé 3 de ses films et fait intervenir Claudine Le Pellec-Marron. Un programme du coup aussi autour des films de dystopie. Et puis, comme tu disais sur Citizen Kane, là ça s'inscrit dans le cadre du focus qu'on fait sur la musique au cinéma, et on s'intéresse au compositeur Bernard Herrmann.
Oui, c'est ce que j'allais dire. La musique, elle a une place importante aussi dans le festival, notamment avec le prix du meilleur clip que vous avez décerné la semaine dernière, il me semble.
Oui, c'était la toute première année où on faisait le kiff du clip. C'est vraiment un rendez-vous au sein du festival. Chaque année, les années précédentes, c'était dans le cadre du festival. Cette année, en fait, on l'a testé un peu en mode warm-up juste avant le festival. Donc, en effet, ça, c'est un concours où... plein de musiciens, de vidéastes envoient leurs clips en amont. Il y a une sélection, on les diffuse et puis il y a un jury qui récompense ce kiff du clip. On a la kiff party le samedi soir qui est programmée par le Novo Max parce que chacun son métier aussi et on leur fait confiance sur le choix des groupes choisis. Après, la musique, cette année, elle a une place particulièrement importante parce qu'on s'intéresse au métier de compositrice et compositeur de musique. Mais les autres années, c'était pas forcément le cas. C'est parce que chaque année, on choisit un angle de dévoiler des coulisses du cinéma. Et l'année dernière, par exemple, c'était les métiers de décorateur de cinéma. Donc voilà.
Et puis des sélections aussi parallèles et des ateliers, notamment le labo numérique et ce qu'on appelle les curiosités numériques. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est ?
Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a imaginé avec d'autres partenaires parce que sur le côté nouvelle création, comment on fabrique de l'image, il y avait aussi pas ignorer aussi les pratiques, d'autres pratiques plus numériques qui peuvent se pratiquer. Et sur ça, par exemple, moi, je sais que je connais pas suffisamment ce domaine, en fait. Et donc, je me suis tournée vers d'autres personnes qui connaissent mieux. Donc, c'est pour ça que, par exemple, l'association Les Portes Logiques à Quimper, ils sont assez curieux et voilà, ils font pas mal de choses là-dessus. Donc, je leur confie un peu une programmation là-dessus. Ils proposent à chaque fois, ils sont force de proposition sur les ateliers. Alexis Lemay, le médiateur du réseau des médiathèques, c'est pareil. Enfin, en fait, c'est des personnes qui ont vraiment une connaissance de ça et qui proposent des ateliers où tout un chacun peut venir bidouiller et expérimenter des choses.
Eh bien, super. Merci beaucoup, Claire, d'avoir été avec nous. Et puis, le festival, c'est pas encore fini.
C'est ça. Le festival se termine dimanche soir. Voilà, il reste tout le week-end. Merci beaucoup à vous.
Merci à toi. Et avant de se quitter, on va peut-être écouter Sam qui va nous parler de Nausicaa de la Vallée du Vent, puisqu'on venait d'en parler à l'instant justement.
Le bleu de la robe de Nausicaa, le jaune vif de la fourrure de Teto, le rouge des yeux des Emu symbolisant leur colère, dans Nausicaa de la Vallée du Vent, les couleurs ne sont pas juste là pour rendre joli. Elles racontent une histoire. Une histoire qui nous fait ressentir la beauté et la fragilité de la nature tout en soulignant les tensions entre humain et environnement. Dans cette œuvre, la colorimétrie devient un véritable langage visuel. Dès les premières images de Nausicaa de la Vallée du Vent, la présence des couleurs est frappante. C'est un élément essentiel du film. On y voit Nausicaa dans une tenue toute bleue avancer vers une sorte de grotte, aux nuances aussi de ses couleurs, de ses vêtements. Le bleu est omniprésent avec, du coup, la robe de Nausicaa et dans les paysages où elle s'aventure. Ce qui permet d'installer une atmosphère calme et mystérieuse. Ces nuances de bleu symbolisent la sagesse, la paix et la sérénité que peut ressentir l'héroïne en étant entourée par la nature. En parallèle, on découvre un homme avec deux sortes d'autruches dans le sable, poursuivi par un omu aux yeux rouges. Ce décor désertique, oppressant, installe tout de suite une ambiance lourde où chaque grain de sable semble chargé de tension et de danger. Les yeux rouges de l'omu, synonyme de la colère et de leur puissance, devient un signe avant-coureur des conflits futurs. Ce rouge intense incarne la force de la nature qui se défend face aux humains et prépare le spectateur à des événements dramatiques. Ainsi, la colorimétrie dans ce début du film ne se limite pas à rendre joli. Elle est un langage visuel qui prépare à la suite de l'histoire. Chaque couleur est une partie de la prophétie et des émotions qui vont se révéler. Cette utilisation des couleurs me fait poser une question. Les couleurs peuvent-elles spoiler un film ? Dans Nausicaa, la réponse semble être oui, mais d'une manière très discrète. Il y a une prophétie évoquée, et grâce à certaines couleurs, elle donne des indices sur le destin des personnages et l'évolution de l'histoire. Par exemple, la présence répétée du rouge annonce la colère et le danger, tandis que le bleu et le jaune suggèrent l'espoir et la réconciliation. Ces teintes deviennent dès lors des symboles visuels qui accompagnent le spectateur tout au long de l'histoire, lui offrant une vision presque omnisciente. Mais ce n'est pas simplement un spoil, c'est une expérience qui enrichit le film, elle invite à observer et à anticiper, transformant chaque image en un message codé. La colorimétrie devient alors un personnage à part entière, un guide qui dévoile son tout révélé.
Merci beaucoup Sam pour ta chronique.
Avec plaisir.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne soirée sur Radio U.